l'économie politique, je crois que c'est fondamentalement ce qui a permis d'assurer l'auto-limitation de la raison gouvernementale. Pourquoi et comment l'économie politique a-t-elle permis cela? Là encore, j'entrerai un peu plus dans les détails par la suite. Je voudrais simplement vous indiquer un certain nombre de points qui sont, je crois, indispensables pour comprendre l'ensemble des choses dont je voudrais vous parler cette année. Eh bien, premièrement, l'économie politique, à la différence justement de la pensée juridique du XVIe ou du XVIIe siècle, elle ne s'est pas développée à l'extérieur de la raison d'État. Elle ne s'est pas développée contre la raison d'État et pour la dignité, au moins en première instance. Elle s'est au contraire, l'économie politique, formée dans le cadre même des objectifs que la raison d'État avait fixés à l'art de gouverner. Car après tout, là, l'économie politique, elle se propose quels objectifs? Bien, elle se propose comme objectif l'enrichissement de l'État. Elle se propose pour objectif la croissance simultanée, corrélative et convenablement ajustée de la population d'une part et des subsistances de l'autre. L'économie politique, elle se propose quoi? Eh bien, d'assurer de façon convenable et ajustée et toujours gagnante la concurrence entre les États. L'économie politique, elle se propose justement le maintien d'un certain équilibre entre les États pour que précisément la concurrence puisse avoir lieu. C'est-à-dire qu'elle reprend très exactement les objectifs qui étaient ceux de la raison d'État et que l'État de police, que le mercantilisme, que la balance européenne avaient essayé de réaliser. Donc l'économie politique va se loger en première instance à l'intérieur même de cette raison gouvernementale que le XVIe et le XVIIe siècle avaient définie. Deuxièmement, et dans cette mesure-là, si vous voulez, elle ne va pas du tout avoir cette position d'extériorité qu'avait la pensée juridique. Deuxièmement, l'économie politique ne se propose pas du tout comme une objection externe à la raison d'État et à son autonomie politique, puisque, et c'est là un point qui sera historiquement important, la première conséquence de la politique, de la première réflexion économique qui ait existé dans l'histoire de la pensée européenne, eh bien, ça sera précisément une conséquence qui va tout à l'encontre de ce qu'avaient voulu les juristes, ce sera une conséquence qui conclut à la nécessité d'un despotisme total. La première économie politique, c'est bien entendu celle des physiocrates, et vous savez que les physiocrates, j'y reviendrai par la suite, ont, à partir même de leur analyse économique, conclu que le pouvoir politique devait être un pouvoir sans limitation externe, sans contrepoids externe, sans frontières venues d'autre chose que de lui-même, et c'est cela qu'ils ont appelé le despotisme. Le despotisme, c'est un gouvernement économique, mais qui n'est inséré, qui n'est dessiné dans ses frontières par rien d'autre que une économie qu'il a lui-même définie et qu'il contrôle lui-même totalement. Despotisme absolu. Et par conséquent, dans cette mesure-là, vous voyez là aussi que la ligne de pente qui avait été dessinée par la raison d'État n'est pas inversée par l'économie politique, au moins en première instance, au moins à ce niveau-là, et que l'économie politique peut apparaître comme étant dans la droite file d'une raison d'État qui donnait au monarque un pouvoir total et absolu. Troisièmement, l'économie politique, eh bien, précisément, elle réfléchit sur quoi? Elle analyse quoi? Non pas quelque chose comme des droits antérieurs qui auraient été inscrits, soit dans la nature humaine, soit dans l'histoire d'une société. L'économie politique, elle réfléchit sur des pratiques gouvernementales elles-mêmes, et ces pratiques gouvernementales, elle ne les interroge pas en droit, pour savoir si elles sont légitimes ou pas. Elle les envisage non pas du côté de leur origine, mais du côté de leurs effets. en se demandant, par exemple, non pas, qu'est-ce qui autorise un souverain à lever des impôts, mais tout simplement, quand on lève un impôt, quand on lève cet impôt, à ce moment déterminé, sur telle catégorie de personnes, ou sur telle catégorie de marchandises, qu'est-ce qui va arriver? Peu importe que ce droit soit légitime ou pas en termes de droit, le problème est de savoir quel effet il a, et si les effets sont négatifs, c'est à ce moment-là que l'on dira que l'impôt en question est illégitime, ou en tout cas qu'il n'a pas de raison d'être. Mais en tout cas, c'est toujours à l'intérieur même de ce champ de la pratique gouvernementale, et en fonction de ses effets, non en fonction de ce qui pourrait le fonder en droit, que la question économique va être posée. Quels sont les effets réels de la gouvernementalité au terme même de son exercice, et non pas quels sont les droits originaires qui peuvent fonder cette gouvernementalité. C'est la troisième raison pour laquelle l'économie politique a pu, dans sa réflexion, dans sa rationalité, prendre place, si vous voulez, à l'intérieur même de la pratique et de la raison gouvernementale établie à l'époque précédente. Quatrième raison, c'est que, en répondant à ce type de questions, l'économie politique a fait apparaître l'existence de phénomènes, de processus et de régularités qui ont ceci, c'est qu'ils se produisent nécessairement en fonction de mécanismes intelligibles, que ces mécanismes intelligibles et nécessaires, bien sûr, ils peuvent être contrariés par certaines formes de gouvernementalité, par certaines pratiques gouvernementales, peuvent être contrariés, peuvent être brouillés, peuvent être obscurcis, mais de toute façon, on ne les évitera pas. On ne pourra pas les suspendre totalement et définitivement. De toute façon, ils feront retour sur la pratique gouvernementale. Autrement dit, ce que l'économie politique découvre, ce n'est pas des droits naturels antérieurs à l'exercice de la gouvernementalité. Ce qu'il découvre, c'est une certaine naturalité propre à la pratique même du gouvernement. Il y a une nature propre aux objets de l'action gouvernementale. Il y a une nature propre à cette action gouvernementale elle-même, et c'est cela que va étudier l'économie politique. C'est ainsi, par exemple, que c'est une loi de nature, expliqueront les économistes, que la population, par exemple, se déplace vers les salaires les plus élevés, c'est une loi de nature que tel tarif doit payer, protecteur des hauts prix de subsistance, va entraîner fatalement quelque chose comme une disette. Qu'est-ce qui va faire qu'un gouvernement va bousculer, en dépit même de ses objectifs, la naturalité propre aux objets qu'il manipule et aux opérations qu'il fait? Qu'est-ce qui va faire qu'il va ainsi violer cette nature, en dépit même de la réussite qu'il cherche? Violence, excès, abus, oui peut-être, mais au fond de ces excès, violence et abus, ce ne sera pas fondamentalement la méchanceté du prince qui va être en question. Ce qui est en question, ce qui explique tout ça, c'est que le gouvernement, au moment même où il viole ses lois de nature, eh bien tout simplement les méconnaît. Il les méconnaît parce qu'il en ignore l'existence, il en ignore le mécanisme, il en ignore les effets. Autrement dit, les gouvernements peuvent se tromper. Et le plus grand mal d'un gouvernement, ce qui fait qu'il est mauvais, ce n'est pas parce que le prince est mauvais, c'est parce qu'il est ignorant. Bref, entre simultanément dans l'art de gouverner et par le biais de l'économie politique, premièrement, la possibilité d'une auto-limitation, que l'action gouvernementale se limite elle-même en fonction de la nature de ce qu'elle fait et de ce sur quoi elle porte, possibilité de limitation. Et question de la vérité, ces deux choses-là sont introduites dans la raison gouvernementale par le biais de l'économie politique. Vous me direz que ce n'est pas la première fois, sans doute, que la question de la vérité et la question de l'auto-limitation de la pratique gouvernementale se posent. Après tout, qu'est-ce qu'on entendait par la sagesse du prince dans la tradition? La sagesse du prince, c'était quelque chose qui faisait dire au prince « Je connais trop bien les lois de Dieu, je connais trop bien la faiblesse humaine, je connais trop bien mes propres limites pour ne pas borner mon pouvoir et pour ne pas respecter le droit de mon sujet. » Mais on voit bien que ce rapport entre principe de vérité et principe d'auto-limitation est tout à fait différent dans la sagesse du prince et dans ce qui est en train d'émerger maintenant, et qui est une pratique gouvernementale qui s'inquiète de savoir quelles vont être, dans les objets qu'elle traite et manipule, les conséquences naturelles de ce qui est entrepris. Les prudents conseillers qui fixaient autrefois des limites de sagesse à la présomption du prince n'ont plus rien à voir avec ces experts économiques qui sont en train d'apparaître et qui, eux, ont pour tâche de dire en vérité à un gouvernement quels sont les mécanismes naturels de ce qu'il manipule. Avec l'économie politique, on entre donc dans un âge dont le principe pourrait être celui-ci. Un gouvernement ne sait jamais assez qu'il risque de gouverner toujours trop. Ou encore, un gouvernement ne sait jamais trop bien comment gouverner juste assez. Le principe du maximum minimum dans l'art de gouverner se substitue à cette notion de l'équilibre équitable, de la justice équitable qui ordonnait autrefois la sagesse du prince. Eh bien, telle est, je crois, cette question de l'auto-limitation par le principe de la vérité, tel est le coin formidable que l'économie politique a introduit dans la présomption indéfinie de l'état de police. Moment évidemment capital, puisque s'établit dans ses linéaments les plus importants, non pas bien sûr le règne du vrai dans la politique, mais un certain régime de vérité qui est précisément caractéristique de ce qu'on pourrait appeler l'âge de la politique et dont le dispositif de base est en somme le même encore aujourd'hui. Quand je dis régime de vérité, je ne veux pas dire que la politique, ou l'art de gouverner si vous voulez, accède enfin à cette époque-là à la rationalité. Je ne veux pas dire qu'on atteint à ce moment-là une sorte de seuil épistémologique à partir duquel l'art de gouverner pourrait devenir scientifique. Je veux dire que ce moment que j'essaie d'indiquer actuellement, que ce moment est marqué par l'articulation sur une série de pratiques d'un certain type de discours qui, d'une part, le constitue comme un ensemble lié par un lien intelligible et, d'autre part, légifère et peut légiférer sur ces pratiques en termes de vrai ou faux. Concrètement, ça veut dire ceci. Au fond, il existait, au XVIe, XVIIe, avant d'ailleurs, il existait encore jusqu'au milieu du XVIIIe, première moitié du XVIIIe siècle, toute une série de pratiques qui étaient, si vous voulez, les levées fiscales, les tarifs douaniers, les règlements de fabrication, les réglementations sur les tarifs des grains, la protection et la codification des pratiques de marché, enfin tout ça, qui était quoi? Et qui était réfléchi comme quoi? Eh bien, c'était réfléchi comme l'exercice de droits souverains ou de droits féodaux, comme le maintien de coutumes, comme des procédés d'enrichissement efficaces pour le trésor, comme des techniques pour empêcher les révoltes urbaines ou le mécontentement de telle ou telle catégorie de sujets. Enfin, tout ça, c'était des pratiques, bien sûr, réfléchies, mais réfléchies à partir d'éléments et de principes de rationalisation différents. entre ces différentes pratiques, allant, si vous voulez, du tarif douanier à la levée fiscale, à la réglementation de marché et de production, etc., entre ces différentes pratiques. On va, à partir du milieu du XVIIIe siècle, pouvoir établir une cohérence réfléchie, raisonnée, cohérence établie par des mécanismes intelligibles qui lient ces différentes pratiques et les effets de ces différentes pratiques les uns aux autres, et qui vont par conséquent permettre de juger toutes ces pratiques comme bonnes ou mauvaises, non pas en fonction d'une loi ou en fonction d'un principe moral, mais en fonction de propositions qui vont elles-mêmes être soumises au partage du vrai et du faux. C'est donc tout un jeu, un ensemble, un pan de l'activité gouvernementale qui va ainsi passer dans un nouveau régime de vérité, et ce régime de vérité a pour effet fondamental de déplacer toutes les questions que précédemment pouvait poser l'art de gouverner. Ces questions autrefois c'était: est-ce que je gouverne bien conformément aux lois, morale, naturelle, divine, etc. C'était donc la question de la conformité gouvernementale. Puis, cela était au XVIe et au XVIIe siècle avec la raison d'État. Est-ce que je gouverne bien assez intensément, assez profondément, avec assez de détails pour porter l'État jusqu'au point fixé par son devoir-être, pour porter l'État à son maximum de force? Et maintenant, le problème va être: est-ce que je gouverne bien à la limite de ce trop et de ce trop peu, entre ce maximum et ce minimum que me fixe la nature des choses? La nature des choses, je veux dire les nécessités intrinsèques aux opérations du gouvernement. C'est là l'émergence de ce régime de vérité comme principe d'auto-limitation du gouvernement, qui est, je crois, enfin qui est en tout cas l'objet que je voudrais traiter cette année. C'était après tout le même problème que je m'étais posé à propos de la folie, à propos de la maladie, à propos de la délinquance, à propos de la sexualité. Il s'agit dans tous ces cas-là, non pas de montrer comment ces objets ont été longtemps cachés avant d'être enfin découverts. Il ne s'agit pas de montrer comment tous ces objets ne sont que de vilaines illusions ou des produits idéologiques à dissiper à la brume de la raison enfin montée à son zénith. Il s'agit de montrer par quelle interférence toute une série de pratiques, à partir du moment où elles sont coordonnées à un régime de vérité, par quelles interférences cette série de pratiques a pu faire que ce qui n'existe pas, la folie, la maladie, la délinquance, la sexualité, etc., que ce qui n'existe pas devienne cependant quelque chose qui pourtant continue à ne pas exister. C'est-à-dire, non pas une erreur. Quand je dis que ce qui n'existe pas devient quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de montrer comment une erreur a pu effectivement être bâtie, non pas comment une illusion a pu naître, mais je voudrais montrer comment c'est un certain régime de vérité, et donc par conséquent pas une erreur, qui a fait que quelque chose qui n'existe pas a pu devenir quelque chose. Ce n'est pas une illusion, puisque c'est précisément un ensemble de pratiques et de pratiques réelles qu'il a établi et le marque ainsi impérieusement dans le réel. L'enjeu de toutes ces entreprises à propos de la folie, de la maladie, de la délinquance, de la sexualité, et de ce dont je parle maintenant, l'enjeu de toutes ces entreprises, c'est de montrer comment le couplage série de pratiques, régime de vérité, forme un dispositif de savoir-pouvoir qui marque effectivement dans le réel ce qui n'existe pas et le soumet légitimement au partage du vrai et du faux. Ce qui n'existe pas comme réel, ce qui n'existe pas comme relevant d'un régime légitime de vrai et de faux. C'est ce moment qui, je crois, dans les choses qui m'occupent là actuellement, eh bien, c'est ce moment qui marque la naissance de cette bipolarité dissymétrique de la politique et de l'économie. La politique et l'économie qui ne sont ni des choses qui existent, ni des erreurs, ni des illusions, ni des idéologies. C'est quelque chose qui n'existe pas et qui pourtant est quelque chose inscrit dans le réel, relevant d'un régime de vérité qui partage le vrai et le faux. Eh bien, ce moment que je voudrais, dont j'ai essayé d'indiquer le principal composant, c'est donc ce moment qui se situe entre Walpole, dont je vous parlais, et un autre texte. Walpole disait « Quieta non movere » à ce qui reste tranquille, surtout ne pas toucher. Conseil de prudence sans doute, et on était encore dans l'ordre de la sagesse du prince, c'est-à-dire que du moment que les gens sont tranquilles, du moment qu'ils ne s'agitent pas, du moment qu'il n'y a ni mécontentement ni révolte, eh bien restons tranquilles, sagesse du prince. Il disait ça, je crois, vers les années 1740. En 1851, un article anonyme paraît dans le journal économique. Il a été écrit en fait par le marquis d'Argenson, qui venait à ce moment-là de quitter les affaires en France, et le marquis d'Argenson rappelant ce que le commerçant Legendre disait à Colbert quand Colbert lui disait « Que je puisse faire pour vous ?» Legendre avait donc répondu « Ce que vous pouvez faire pour nous, laissez-nous faire. » Eh bien, d'Argenson. Dans ce texte sur lequel je reviendrai, d'Argenson dit, eh bien maintenant, ce que je voudrais faire, c'est commenter ce principe « laissez-nous faire », car, montre-t-il, c'est bien cela, le principe essentiel que doit respecter, que doit suivre tout gouvernement en matière économique. Il a, à ce moment-là, posé clairement le principe de l'auto-limitation de la raison gouvernementale. Auto-limitation de la raison gouvernementale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau type de rationalité dans l'art de gouverner, ce nouveau type de calcul qui consiste à dire et à faire dire au gouvernement, à tout cela, j'accepte, je veux, je projette, je calcule qu'il ne faut pas toucher. Eh bien, je pense que c'est cela, en gros, que l'on appelle le libéralisme. Eh bien, j'avais pensé pouvoir vous faire cette année un cours sur la biopolitique. J'essaierai de vous montrer comment tous les problèmes que j'essaie de repérer là actuellement, comment tous ces problèmes ont pour noyau central, bien sûr, ce quelque chose que l'on appelle la population. Par conséquent, c'est bien à partir de là que quelque chose comme une biopolitique pourra se former. Mais il me semble que l'analyse de la biopolitique ne peut se faire que lorsque l'on a compris le régime général de cette raison gouvernementale dont je vous parle, ce régime général que l'on peut appeler la question de vérité, et premièrement de la vérité économique à l'intérieur de la raison gouvernementale, et par conséquent, si l'on comprend bien de quoi il s'agit dans ce régime qui est le libéralisme, lequel s'oppose ou plutôt modifie fondamentalement, sans peut-être en remettre en question les fondements, s'oppose à la raison d'État. C'est une fois qu'on aura su ce que c'était que ce régime gouvernemental appelé libéralisme qu'on pourra, me semble-t-il, saisir ce qu'est la biopolitique.